et avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient dans 30 minutes comme tous les matins. Nous lancerons un débat et nous parlerons tout à l'heure de la course à la Maison Blanche aux États-Unis. La semaine dernière, vous le savez, Donald Trump a officiellement été intronisé comme candidat des Républicains. Pourtant, il y a un an, rappelez-vous, personne ne le prenait au sérieux. Finalement, tous les observateurs ont sous-estimé les capacités du milliardaire à s'imposer sur la scène politique. Alors, que vous inspire le phénomène Donald Trump? Que pensez-vous finalement de son style provocateur, de ses discours sexistes et souvent xénophobes? Vous nous rejoignez ici à Paris. Nous vous donnerons évidemment la parole. 33 9 693 693 70. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines de réactions déjà posté, j'en lirai évidemment quelques-unes dans le courant du débat. En tout cas, cette semaine, c'est au tour des démocrates d'investir Hillary Clinton. L'ex-secrétaire d'État a promis de livrer une vision très différente de l'Amérique. Nous construirons des ponts, pas des murs, a-t-elle déclaré. Allusion évidemment au projet de Donald Trump de construire un grand mur le long de la frontière mexicaine. Clinton ou Trump, lequel des deux candidats retient votre attention? RFI vous donnera la parole. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont d'abord vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Aubrou Olivier nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous.
Bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous avez des questions sur la Libye après la mort de 3 militaires français.
Oui, exactement. Alors selon les médias, 3 soldats français ont été tués en territoire libyen. Le président français a parlé d'officiers tués en service commandé. Alors ma question c'est de savoir ce que signifie le service commandé et puis que faisaient ces soldats français en territoire libyen.
C'est vrai que ces 3 militaires français ont perdu la vie dans des circonstances qui ne sont pas très très claires. Officiellement, ils sont morts dans un accident d'hélicoptère. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions militaires à RFI. Alors c'est vrai que la mort de ces 3 français confirme bien que la France agit clandestinement en Libye. 3 sous-officiers décédés en service commandé. Ça veut dire quoi, service commandé?
Alors pourquoi est-ce que les autorités parlent-elles de service commandé? Tout simplement, ça veut dire que ces militaires agissaient sur ordre. Ça veut dire qu'ils étaient bien en mission pour la France en Libye. Et pourquoi est-ce qu'on précise? Bah, tout simplement parce qu'officiellement, la France n'est pas en guerre en Libye. Donc pour le pouvoir politique, effectivement, ça a peut-être été un peu compliqué parce qu'il a fallu reconnaître des morts français dans une opération dont ils ne reconnaissaient pas l'existence jusqu'alors. En réalité, ça fait des mois, on en a parlé sur cette antenne, qu'on sait que la France opère discrètement.
C'était un secret de polichinelle.
En Libye, oui, par le biais de forces spéciales, par le biais aussi de membres du service action de la DGSE, les services de renseignement extérieur, qui par essence opèrent de manière clandestine. D'ailleurs, vous avez vu les réactions, peut-être d'ailleurs un peu orchestrées, du gouvernement d'Union nationale libyen, qui a condamné une violation sur son territoire, de son territoire par la France. En fait, on peut quand même imaginer que le gouvernement d'Union nationale libyen était au courant qu'il y avait des Français qui opéraient dans cette région de Libye.
Voilà. Enfin, officiellement, le gouvernement d'Union nationale, qui est soutenu par la communauté internationale et la France, a déclaré que rien ne justifiait une telle intervention de la part des militaires français. Concrètement, que faisaient ces 3 militaires français sur le sol libyen?
Alors, on nous parle d'une mission de renseignement possible, mais c'est pas forcément les gens du service action qu'on envoie pour faire du renseignement. Bien sûr, dans toute mission, il y a une phase de renseignement, mais en fait, le service action dont on parle depuis quelques jours rassemble des unités de choc des services secrets français qui disposent de commandos spécialisés dont la mission peut être l'élimination de terroristes, l'enlèvement, le sabotage, des missions de contre-guérilla, etc. Donc, on voit bien que ce sont des missions très spécifiques. Donc, ces commandos peuvent former, mais aussi accompagner au combat les troupes du général Haftar. Mais bien sûr, quand il y a des morts, on ne précise pas l'identité des victimes, voire même on cache leur disparition. François Hollande parle d'un accident d'hélicoptère, peut-être car effectivement un hélicoptère libyen s'est bien écrasé quelques jours plus tôt. Il est possible que les trois militaires aient pris place à bord de cet hélicoptère, mais c'est pas prouvé.
Oui. Mais accident, parce qu'on parle également d'un hélicoptère abattu.
Oui, alors effectivement, ça c'est la brigade de défense de Benghazi qui affirme que l'hélicoptère a été abattu par un missile portable à très courte portée, un SAM-7. On a vu quelques photos sur la toile, on a vu quelques photos sur Twitter, photos qui sont pas convaincantes, des photos de l'épave, et aucune photo des victimes françaises, du commando français, pas même des photos qui ont été exploitées par la propagande de l'adversaire. Souvenez-vous, c'est ce qui avait été fait dans des circonstances un peu similaires lors de l'opération qui avait échoué en Somalie pour la libération d'un agent de la DGSE qui se faisait appeler Denis Alex, qui était resté quelques années au Mahdi Chebab en Somalie. Il y avait eu quelques morts pendant l'opération, et un des membres du commando avait été récupéré, et malheureusement ça avait été orchestré, ça avait été mis en image par les Chebab.
Voilà. Donc à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre après la mort de ces trois militaires français en Libye.
Tout à fait, et ouais. On saura probablement jamais ce qui s'est passé, c'est la règle.
Hein. Mmh. Au Brou, Olivier, on a répondu à vos questions.
Oui, c'est bon. Alors, il y a encore des petites zones d'ombre, mais j'aurai le temps, quand le thème de l'émission, de les reposer pour la prochaine émission.
Bon, bah écoutez, si vous souhaitez nous rappeler, surtout n'hésitez pas, nous sommes ouverts tous les matins à 8h10 temps universel, 10h10 heure de Paris, du lundi au vendredi. Merci à Olivier Four, spécialiste des questions militaires, d'être venu nous répondre donc à ces questions. Il est 10h17 ici à Paris, ce sont vos questions, on continue. On va s'intéresser maintenant au Mali, après l'attaque qui a tué la semaine dernière 17 soldats lors de l'assaut d'une base militaire dans le centre du pays. Bonjour Nicodème.
Oui, bonjour, le bon maître.
Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad. On vous écoute.
Oui, je suis de N'Djamena au Tchad. Très bien. L'attaque de Nampala a été doublement revendiquée par les groupes islamistes et par les groupes PEL. Comment expliquer cette double revendication? Et comment expliquer cette facilité de cette attaque?
Ah, une attaque effectivement revendiquée à deux reprises, d'abord par l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, puis quelques heures plus tard par le groupe djihadiste malien en Sardine. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous de Bamako. Vous êtes l'un des correspondants des RFI au Mali. Comment expliquer cette double revendication? C'est une question qui est souvent revenue au standard ces derniers jours.
Ah oui, tout à fait, parce que effectivement, au coup, alors que l'attaque se déroulait, un groupe Peul a revendiqué au téléphone auprès de médias francophones, anglophones et même arabophones, des médias mauritaniens notamment. Alors, vous l'avez dit, il s'agit de l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, mais tout de suite, le doute s'est installé et quelques heures après, un site par site spécialisé, le groupe en Sardine a revendiqué à son tour la même attaque. Alors, quand on voit les moyens déployés sur le terrain, de nombreux véhicules, de l'armement lourd, la seconde revendication est plus plausible. Alors, pourquoi deux revendications sur la même opération? Il faut savoir que l'Alliance, qui se veut une alliance pour la restauration de l'identité Peul, a été récemment créée. Et elle avait annoncé à sa création des futures attaques contre l'armée malienne. Ces attaques ne venaient pas. Et elle perdait sa crédibilité. Et elle a dû sauter sur une occasion pour revendiquer une opération dont elle n'est pas le principal auteur. Alors, il y a quand même une autre hypothèse. C'est que quelques éléments de l'Alliance ont peut-être servi de supplétifs aux djihadistes qui ont mené l'opération. Donc, ils se sont permis de revendiquer l'attaque. Dans tous les cas, la démarche de l'Alliance consistait, à mon avis, à ne pas se faire oublier sur le terrain.
Ouais, donc rien n'exclut une porosité entre les groupes armés, et notamment entre ce groupe Peul et le groupe djihadiste en Sardine.
Ce n'est pas du tout exclu, surtout que dans la zone, vous savez qu'ils sont arrivés au saut du lit, après l'attaque, on a revu des hommes à moto sur les lieux, des hommes armés à moto, alors que les autres étaient plutôt en véhicule, c'était armé, c'était du lourd, donc c'est pas du tout exclu, surtout que, vous l'avez dit, il y a une porosité, il y a une passerelle généralement entre tous ces groupes armés du nord du Mali.
Ouais, on parle d'une attaque puissante, les faits le prouvent, d'une attaque coordonnée, c'est vrai que les assaillants étaient lourdement armés, mais comment finalement quelques dizaines d'assaillants ont-ils pu prendre si facilement le contrôle de cette base militaire? C'est la question que nous pose Nicodène, comment expliquer la facilité de cette attaque?
Alors, la question est très importante parce que c'est quand même la deuxième base d'importance dans cette région administrative de Ségou. C'est quand même du lourd. Hein. Alors, le camp, il faut savoir, se trouve à l'entrée sud de la ville de Nampala. Alors, l'armée a un camp, un poste de commandement opérationnel à l'intérieur de ce camp. Et l'armée a également des checkpoints autour du camp, c'est-à-dire, disons, à 500, à moins d'un kilomètre autour du camp, l'armée a un des checkpoints. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les djihadistes, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont coupé le PC, c'est-à-dire le poste de commandement opérationnel, des checkpoints de l'armée, si bien qu'il n'y avait plus de communication efficace entre, d'un côté, le PC et les checkpoints. Donc, évidemment, ça a été difficile à un moment, c'était difficile, disons-le, pour l'armée malienne. Ensuite, en fait, c'était une double attaque, voire une triple attaque qui se préparait, puisque les djihadistes, à un moment, se sont retirés. Et ils attendaient que l'armée malienne ramène du secours, du renfort de l'armée malienne vienne de Ségou, là, c'est plus au sud, pour attaquer ce renfort. Je pense que l'armée malienne, en ce moment, a compris et a contourné l'obstacle, mais pour venir sur le terrain, il était déjà trop tard. Donc, tactiquement, les rebelles ont, c'est ce qu'on peut appeler une embuscade ou une opération surprise, qui a été effectué par les djihadistes à Nampala.
Et le président Ibrahim Boubacar Keïta a même parlé de défaillance dans le dispositif de l'armée. Merci d'avoir été avec nous, Serge Daniel, en direct de Bamako, où il est 8h21. Nicodème, bonne journée à N'Djamena. Dans 20 minutes, notre débat du jour consacré à la course à la Maison-Blanche aux États-Unis avec l'intronisation officielle la semaine dernière de Donald Trump et cette semaine d'Hillary Clinton côté démocrate. Clinton ou Trump, lequel des deux candidats retient votre attention? Vous nous rejoignez, évidemment, vos commentaires nous intéressent, 33 9 693 693 70. Et on va justement nous intéresser maintenant à l'investiture officielle de Donald Trump. Je vous le disais, c'était la semaine dernière. Dandy, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Francistown, c'est au Botswana, et vous avez donc plusieurs questions, on vous écoute.
Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, nous savons que Donald Trump a été investi officiellement la semaine passée. Et j'ai entendu parler d'une forte division au sein du Parti républicain. Alors, est-ce que je voudrais savoir si tous les élus vont-ils se ranger derrière lui?
Ah, bonne question. Effectivement, Margot Wartel nous a rejoint. Bonjour Margot.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service international d'RFI, malgré l'investiture officielle de Donald Trump, on a quand même l'impression que le Parti républicain peine à faire l'unité autour de son candidat.
Oui, la semaine dernière, la convention républicaine, c'était un peu la convention des grands absents. Normalement, les anciens présidents font des discours pour encourager le candidat. Là, il n'y avait ni bouche-père, ni bouche-fils. Il n'y avait pas non plus John McCain et Mitt Romney, les deux anciens candidats républicains en 2008 et 2012. Également manquant à l'appel, Jeb Bush, John Kasich, Marco Rubio, adversaire malchanceux de Donald Trump lors des primaires. Et même celui qui était là, Ted Cruz, ne s'est officiellement pas rangé derrière Trump. Il a appelé les électeurs à voter selon leur conscience. Une belle pique quand même en direction du milliardaire.
Effectivement, c'est vrai que c'est un camouflet pour Donald Trump, puisque le seul qui était là, c'était donc Ted Cruz, qui a dit « si vous aimez votre pays, votez selon votre conscience », qui lui a valu d'ailleurs des huées et des sifflets lors de la convention, mais c'est vrai que c'est une belle pique, comme vous le disiez, en direction du milliardaire. Il y a eu d'autres républicains qui ont justifié leur absence
Oui, par exemple, Jeff Flake, c'est le sénateur de l'Arizona qui a donné une excuse pas très crédible, a déclaré avoir prévu de tondre sa pelouse le jour de la convention.
Ah oui, excellent mot d'excuse. L'union sacrée, finalement, elle n'a pas eu lieu la semaine dernière lors de cette convention républicaine.
Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, car finalement, après deux premiers jours donc de cacophonie, la majorité des délégués s'est rangée derrière Trump. Le candidat, maintenant, c'est bien lui. Il a fait taire à peu près les contestations et il n'y aura pas de candidature concurrente. En plus, la haine envers Hillary Clinton risque de solidariser un peu les troupes républicaines, même s'il va quand même manquer à Trump quelques grands noms historiques du parti.
Donc, tous unis derrière Trump contre Hillary Clinton. Dandy, vous avez une autre question ?
Oui, la deuxième question, c'est en rapport avec le plagiat du discours. Nous avons suivi Melania Trump. On l'a accusé de plagiat du discours de Michelle Obama. Alors, je voudrais savoir si ce plagiat peut-il modifier l'image du candidat Trump.
Alors, on rappelle tout de même que Melania Trump a pris publiquement la parole la semaine dernière. C'est la première fois, d'ailleurs, elle est montée sur la scène, soutenir évidemment son époux. Et le problème, c'est que plusieurs passages de son discours ont été clairement pompés sur celui de Michelle Obama en 2008.
Oui, tout à fait. Ça a été moqué d'ailleurs par beaucoup d'internautes. Par contre, on ne peut pas vraiment dire, pour revenir sur la question, si ça lui a fait du bien ou du discrédit à Donald Trump, mais Trump lui-même dit souvent que même de la mauvaise publicité reste de la publicité. Donc bon, et Melania Trump donc s'est beaucoup attiré les moqueries. La communauté noire, par exemple, a même dénoncé le vol du discours de la première dame afro-américaine de l'histoire du pays, classique pour les blancs, selon ses critiques, de voler le travail des noirs.
Ah oui.
En plus, d'autres éléments de la campagne de Trump sont moqués pour leur manque d'originalité. C'est le cas de son slogan Make America Great Again, qu'on peut traduire par rendre à l'Amérique sa grandeur, qui est le même en fait que celui de Reagan en 1980. En fait, l'histoire de ce plagiat révèle pour beaucoup d'observateurs l'amateurisme de la campagne de Donald Trump, car les reprises auraient dû être détectées bien avant, et la bourde est donc plutôt révélatrice de l'impréparation et des approximations du candidat.
On repasse au standard avec une autre question. On remercie évidemment Dandy, hein, qui nous écoute au Botswana, dans l'est du pays. Jean, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin.
Tout à fait, oui.
On vous écoute.
Alors, Mike Pence a été choisi pour être colistier de Donald Trump. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que Pence peut apporter à Donald Trump. Quelle est sa ligne politique? J'ai aussi entendu dire que les deux hommes n'étaient pas très proches et que leurs opinions diversent souvent. Alors, pourquoi l'a-t-il choisi alors?
Ah, bonne question. Margot Wartel, c'est vrai que les deux hommes ont beau appartenir au même parti, ils s'opposent finalement sur de nombreux points.
Oui, il faut un peu imaginer Mike Pence comme l'opposé en fait de Donald Trump. Par exemple, en économie, Trump est pour le protectionnisme, Pence lui est pour le libre-échange. Il est d'ailleurs favorable au traité transpacifique que Trump critique beaucoup. Une autre divergence, Mike Pence est farouchement contre l'avortement, alors que Trump lui a toujours été assez flou sur le sujet. Sur les questions internationales, là aussi, le candidat à la vice-présidence était pour l'invasion de l'Irak, alors que Trump a fait de l'isolationnisme, la non-intervention, le thème phare de son programme de politique extérieure. On le voit donc beaucoup de divergences politiques de fond entre les deux républicains. Mais finalement, c'est peut-être sur le style que le contraste est le plus saisissant. Trump est un homme de spectacle, de télévision. Il est père de 5 enfants, né de 3 mariages différents. Il est extravagant ou en couleur. À côté, Mike Pence incarne un peu la droiture morale à l'américaine. Il est très religieux, marié depuis plus de 30 ans. En plus, c'est un homme assez discret et peu connu du grand public.
Oui, d'ailleurs, signalons que Donald Trump et Mike Pence se connaissaient à peine lorsque... Donald Trump est allé le choisir comme colistier. Colistier, ça signifie que si Donald Trump est élu, il sera évidemment vice-président des États-Unis. Mike Pence, en tout cas, n'a pas toujours soutenu Donald Trump. Au début des primaires, il était même aux côtés de Ted Cruz. Finalement, comment Mike Pence se situe-t-il au sein du Parti des Républicains ?
Il est très à droite, en fait, un peu comme Ted Cruz qui l'a soutenu. Il a fait partie de la branche dure du Parti républicain. Il est d'ailleurs proche du Tea Party. Le Tea Party, c'est le mouvement anti-État fédéral de Sarah Palin. En 2015, par exemple, il avait promulgué une loi jugée discriminante envers les homosexuels. Au nom de la liberté religieuse, les commerçants de l'Indiana, donc son État, peuvent désormais refuser de servir un client homosexuel. Lui, il se définit comme un chrétien conservateur républicain et il précise dans cet ordre, donc avant tout chrétien, puis conservateur, puis républicain, histoire de bien souligner l'importance de la religion pour lui.
Alors Jean se demande à juste titre, pourquoi malgré ces divergences, Donald Trump l'a-t-il choisi ?
Eh bien, pour ce profil-là, en fait, justement, très conservateur, très croyant, Mike Pence va attirer, a priori, la droite religieuse, jusque-là pas forcément convaincue par Trump, par son excentricité, ses positions sociétales pas toujours très définies, même si elles sont aussi réactionnaires. En plus, Mike Pence a une image plus classique, de quoi rassurer les poids lourds du Parti républicain, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ne sont pas forcément acquis aux milliardaires. Enfin, l'état de Mike Pence, l'Indiana, symbolise un peu l'Amérique à qui Trump veut parler. C'est un état du Midwest, un état industriel, minier, qui a souffert des délocalisations. C'est un peu l'Amérique des travailleurs, des ouvriers à qui Trump s'adresse à longueur de discours.
Et on parlera évidemment de la politique de Donald Trump avec les auditeurs dans une dizaine de minutes, juste après le journal. Merci beaucoup, Margot Wartel, d'être venue répondre à quelques-unes des questions. Et je pense qu'on ne manquera pas de questions cette semaine concernant la convention des démocrates qui commence dans quelques heures maintenant et qui intronisera officiellement Hillary Clinton. Que vous inspire d'ailleurs la perspective d'un deuxième Clinton à la Maison Blanche? En tout cas, sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook de l'émission, vous êtes nombreux à commenter ce duel Trump-Clinton. Abdoulaye nous dit que Trump, président des États-Unis, ce serait un retour en arrière, notamment concernant la diversité culturelle. Ce serait une erreur de voter pour ce candidat qui se dit prêt à interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Et vous êtes nombreux à revenir justement sur ces déclarations de Donald Trump. On en parle, c'est promis, dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
7 milliards de voisins.